Imaginez que vous fassiez un cadeau d'anniversaire à une personne qui vous est chère. Vous prenez le temps de réfléchir en détail ce que la personne aime, ce qui vraiment pourrait lui procurer du plaisir. Non seulement une chose qui peut lui faire du plaisir, mais aussi vous cogitez longtemps sur une chose qui peut lui être utile. Une chose de très grande valeur pour cette personne. Vous puisez dans vos économies. Vous achetez ce cadeau pour cette personne. Vous rentrez chez vous. Vous attendez le moment opportun pour donner ce cadeau précieux à la personne. Le moment arrive. Vous prenez votre cadeau, vous le donnez à la personne. Vous observez. Que fait la personne? Elle prend le cadeau. Elle ne prend même pas le temps d'y jeter un coup d'œil. Elle se retourne et continue de regarder une vidéo sur TikTok, délaissant votre cadeau quelque part sur une chaise. Comment vous sentirez-vous à cet instant dans cette situation? Je pense que vous serez déçu. Vous êtes déçu de la réaction de cette personne face à votre cadeau. Mais qu'en est-il de votre propre réaction face au précieux cadeau que vous recevez d'Allah à chacun de vos anniversaires? Vous fêtez chaque année une année de plus, une année qu'Allah vous fait cadeau. Réalisez-vous d'abord que c'est un cadeau d'une année complète de vie supplémentaire et l'appréciez-vous ce cadeau de 365 jours de vie qu'Allah vous a offert à sa juste valeur. Si oui, pouvez-vous répondre correctement, instantanément à la question « Combien d'heures contre l'année de vie qu'Allah vous a gratifié ?» Peu de personnes peuvent répondre correctement, instantanément à cette question, sans regarder ou demander à Google. Une année normale qu'Allah vous donne comprend 8760 heures. Est-ce beaucoup ou peu? Tout dépend de l'utilisation que vous en faites. Nous avons besoin d'environ 8 heures de sommeil par jour. Il nous restera alors 5800 heures. 5800 heures par an pendant lesquelles nous sommes éveillés. La première question que je dois me poser le soir de mon anniversaire est de me dire
الحمد لله رب العالمين.
Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Merci. الحمد لله رب العالمين. Et ensuite, me demander pour l'année qui va venir, comment vais-je utiliser mes 5800 heures d'éveil chaque année? Comment vais-je utiliser les 8700 heures de cadeaux qu'Allah me donne? Comment vais-je remplir mon temps offert par Allah avec des choses valeureuses pour honorer ce cadeau? Ou alors, vais-je continuer à végéter inconsciemment et remplir cette année ce merveilleux cadeau d'Allah avec des futilités? C'est la question que je dois me poser, que je devrais me poser. Vous avez remarqué que je vous propose aujourd'hui une réflexion sur comment se détourner des futilités. Je vous propose d'éviter quatre autres voleurs de temps qui peuvent polluer notre vie de futilités. Je complète ainsi un épisode précédent où j'ai parlé des top 3 voleurs de temps à éviter pour se détourner des futilités. La réflexion m'est inspirée par la magnifique sourate Al-Mu'minun, c'est la sourate 23, au début de laquelle Allah commence par dire
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.
Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui réussissent. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Bienheureux sont certes les croyants. Ensuite, Allah énumère au début de cette sourate 6 qualités qui fondent le succès du croyant. Et parmi ces qualités, il nomme explicitement ceux qui se détournent des futilités. qui se détournent des futilités. Wallazinahum anillagwi mughridun. Ceux qui se détournent des futilités font partie de ceux qui réussissent, nous dit Allah. Et qu'en est-il des autres? À cela, Allah posera la question, toujours dans la sourate Al-Mu'minin, le verset 12, Allah posera la question, mais combien d'années êtes-vous restés sur terre? Combien d'années êtes-vous restés sur terre? Et ces gens malheureux qui remplissent leur vie de futilités, qui remplissent leur cadeau d'Allah, qu'Allah leur offre annuellement, eh bien, ceux-là répondront à la question « Combien d'années êtes-vous restés sur terre ?» Ils répondront « Nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. » Yaouman ou ba'da yaouman. Vous imaginez un instant. Imaginez-vous cela. Imaginez, vous vivez 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans sur terre. Vous vous retrouvez devant Allah. Il vous pose la question, « Combien d'années êtes-vous resté sur terre ?» Et vous répondez à cette directe question par « J'ai vécu un jour ou une partie d'un jour. » Qu'avez-vous alors fait des 20 ans, 40 ans, 60 ans, 80 ans de vie sur terre? Une personne qui donnera cette réponse a littéralement perdu sur terre son temps, a littéralement perdu son temps sur terre. C'est un triste sort. C'est un triste sort que d'avoir reçu ce cadeau précieux d'Allah qui est la vie, que de remplir son temps de futilité pendant des décennies, pendant 40 ans, 60, 80 ans, pour se retrouver le jour de la résurrection devant Allah, obligé de le supplier, obligé de supplier le Seigneur. Seigneur, fais-nous sortir. Nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Et à cette question, à cette supplication, Allah rétorquera par une question. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit puisse réfléchir? Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit puisse réfléchir? Oui, Allah nous a donné une vie assez longue pour réfléchir et pour agir. Il nous offre annuellement 7860 heures, c'est beaucoup de temps. Que faisons-nous avec? Tuer le temps? Meubler le temps? Meubler le temps par des futilités. Comment faire pour éviter de remplir notre vie de futilités? Nous avons tous dans nos maisons, dans nos lieux de travail, dans les hôtels, des caméras de surveillance pour surveiller les voleurs et protéger nos biens matériels. Et je vous invite à installer dans votre tête et aussi dans votre corps une caméra de surveillance pour détecter et chasser d'autres types de voleurs, les voleurs de temps. Les voleurs de temps sont des influences qui nous font perdre notre temps et nous bernent dans les futilités. Il peut s'agir de personnes, mais aussi de situations particulières, de médias ou de nous-mêmes. Quels sont les voleurs de temps et comment les détecter et les chasser? J'ai choisi une bande de 7 voleurs de temps. Dans l'épisode top 3 voleurs de temps à éviter pour se détourner des futilités, j'y ai parlé des 3 voleurs de temps qui sont les priorités floues dues au manque de planification. J'y ai parlé du téléphone et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je parle des 4 autres membres de la bande, des 4 autres voleurs, que sont le perfectionnisme, les réunions, les visites inopinées et les emails. Commençons par le voleur de temps que j'appelle le perfectionnisme. Nous le connaissons tous. Vouloir toujours faire quelque chose de manière parfaite, en supposant que la perfection soit possible, car seul Allah est parfait, demande souvent des efforts extraordinaires qui peuvent ne pas être justifiés dans le contexte de la tâche que nous avons en face de nous. Celui qui veut tout faire avec perfection se disperse souvent dans des détails et glisse inconsciemment dans des futilités. Mais seulement, toutes les tâches n'ont pas la même importance et toutes ne requièrent pas la même attention. Bien sûr, le perfectionnisme est super important pour certaines tâches. Quand vous êtes chirurgien ou bien quand vous êtes pilote, par exemple. Mais il peut aussi nous faire perdre du temps. Si vous êtes par exemple un mécanicien d'avion, c'est compréhensible et nécessaire que vous preniez tout le temps nécessaire pour étudier les vis, les écrous, leurs spécifications, pour régler les sièges d'un pilote d'avion. Mais si vous rentrez à la maison et vous réparez la chaise de votre enfant avec la même attitude perfectionniste, vous risquez non seulement de perdre énormément de temps, mais aussi d'ennuyer votre famille. Et personnellement, j'ai longtemps cru qu'être perfectionniste était une qualité indiscutable. J'ai toujours voulu que toute chose qui porte ma signature soit parfaite. Cela m'a beaucoup aidé pour être là où je suis aujourd'hui, mais le gros problème de vouloir trop bien faire, c'est que cela prend du temps et coûte beaucoup d'énergie, une énergie qui aurait pu être consacrée à autre chose. J'aurais pu utiliser ce temps, par exemple, cette énergie, pour faire autre chose, apprendre une autre langue, apprendre l'arabe coranique, par exemple. Et au fil du temps, mieux vaut tard que jamais, j'ai pris conscience du lourd tribut que le perfectionnisme faisait peser sur moi. J'ai changé d'approche. J'ai adopté la règle des 80-20, également connue sous le nom du principe de Pareto. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, ce principe tire de son nom de l'économiste italien Vilfredo Pareto, qui a observé le phénomène 80-20, à savoir qu'en général, 20% de la population d'un pays possède 80% de la richesse du pays. Bon, c'est pas extraordinaire. Mais ce même schéma se retrouve dans d'autres domaines, que 20% des clients d'une entreprise génèrent 80% de son chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Autrement dit, nous pouvons faire un meilleur usage de notre temps en investissant nos efforts dans les 20% d'activités qui nous permettent d'obtenir 80% des résultats que nous souhaitons obtenir. Et aussi dans d'autres domaines, vous avez dû vous en rendre compte que les premiers résultats arrivent très vite. Mais qu'ensuite, pour devenir encore meilleur, il va falloir y consacrer beaucoup plus de temps. Par exemple, quand vous démarrez une nouvelle activité, qu'elle soit sportive ou professionnelle, au départ, en quelques mois, vous apprenez vite, beaucoup, très vite, beaucoup de nouvelles choses. Vous atteignez déjà un bon niveau par rapport à une personne novice. C'est good enough. Ensuite, la courbe de résultats va évoluer beaucoup moins vite. Et pour continuer à progresser, il va vous falloir y injecter beaucoup de temps et d'énergie pour espérer avoir un gain de 2 à 3% d'amélioration supplémentaire. Est-ce que ça vaut le coup? C'est la balance qu'il faut trouver. Le deuxième voleur de temps aujourd'hui, les réunions. Alors, trop de réunions avec trop de personnes, le plus souvent trop longues et futiles. Les réunions sont un voleur de temps particulièrement redoutable, surtout si vous êtes dirigeant. Dans ce cas, vous passez 60% de votre temps dans des réunions et 80% de ces réunions sont sans effet. Une pure perte de temps énorme. Cela signifie que si vous faites le calcul, que 48%, c'est la moitié de votre temps de travail est inutile. Et si vous êtes dirigeant, vous gagnez plus que les autres, cela signifie que vous passez la moitié de votre temps pour des choses inutiles. Vous êtes payé à ne rien faire. Vous passez la moitié de votre temps de travail avec des futilités. Et si vous êtes intéressé à produire des résultats et éviter les futilités, c'est en réduisant et en mieux maîtrisant ces réunions qu'il faut gagner du temps. Et la meilleure stratégie pour réduire les réunions, c'est d'éviter les réunions. Si vous ne pouvez pas les éviter, choisissez les réunions qui sont utiles. Pour cela, il faut savoir distinguer entre deux types de réunions. Une réunion d'information, qui est purement pour informer ou glaner et structurer des informations afin de préparer une décision. Ou bien c'est une réunion de prise de décision en tant que telle. Si la responsabilité de la réunion vous incombe, c'est-à-dire de préparer, d'inviter, de diriger et sauvegarder les résultats de la réunion, alors il faut savoir choisir les participants. Savoir éviter les touristes de réunion. Ce sont ces personnes qui sont dans toutes les réunions, souvent sans contribution substantielle. Limiter le maximum de réunions, limiter aussi la durée de la réunion. Débutez vos réunions à l'heure, finissez à l'heure. Cultivez l'habitude de refuser catégoriquement de prendre part à une réunion où il n'y a pas d'agenda. Faites un protocole de résultats, court et simple, sans prose. Sans prose du genre « Monsieur X a remercié Madame Epsilon » Monsieur a ouvert la réunion, l'atmosphère était blablabla. Un protocole de résultats sous forme de tableau, court et simple, qui se limite à documenter les résultats de la réunion, c'est-à-dire qu'est-ce qui doit être fait, par qui est responsable et jusqu'à quand. Le jusqu'à quand ne veut pas dire le plus tôt possible, ou bien au milieu de la semaine prochaine, ou bien fin de trimestre, non. Une date, c'est un jour, mois, année. Par exemple, 21 août 2024. En tous les cas, pour chaque réunion, préparez-vous. Pour chaque réunion, préparez-vous. Si vous avez une réunion avec votre chef, préparez-vous encore plus. Mettez au minimum 6 minutes de préparation pour chaque minute de réunion avec votre chef. Ne soyez pas vous-même un voleur de temps de votre chef. Si vous êtes toujours préparé, votre chef le remarquera bientôt. S'il est compétent, il saura apprécier votre impact. C'est aussi une voie pour vous pour progresser. Un troisième voleur de temps, ce sont les visites inopinées. Des gens qui viennent, des parents, d'amis, de collaborateurs et de collègues qui tapent à votre porte. Ce sont aussi des réunions. Elles sont peut-être informelles, mais il faut veiller au grain. Là, il faut être soyez poli, mais ferme. Signalez poliment que vous ne voulez pas être dérangé. Alors convenez de rendez-vous et offrez les alternatives. Le quatrième voleur pour aujourd'hui, ce sont les emails. Alors commençons par désactiver les notifications qui montrent que vous avez reçu un email. Si un email s'affiche sur votre écran, vous n'êtes pas obligé de le lire tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de savoir de quoi il s'agit tout de suite. Ces petites interruptions vous font perdre du temps, vous font casser votre rythme de travail. Alors, consultez vos emails en bloc 2 à 3 fois par jour maximum, à un moment que vous avez défini, avec un temps bien limité, 20-30 minutes par exemple. Nous ne sommes pas obligés de répondre à des emails où nous sommes en copie. Essayez aussi d'observer la règle de Pareto pour votre email inbox. Prenez par exemple une journée ou une semaine et comptez le nombre d'emails que vous recevez au total. Et regardez réellement le nombre d'emails qui sont vraiment importants. Et je parie avec vous que vous verrez que moins de 20% du nombre total d'emails que vous avez reçus sont réellement importants. Et rappelez-vous qu'un email, c'est du temps et du travail. Il faut le lire, souvent relire. Il faut comprendre la substance et ce qu'il faut faire avec. Il faut formuler une réaction, soit répondre soi-même ou faire passer à une autre personne. relais que vous accompagnez avec un texte que vous écrivez, long ou court. Le tout vous coûtera au moins 5 minutes par email. Maintenant, admettons que vous recevez 50 emails par jour et que vous investissez seulement 5 minutes par email, cela vous donnera un volume de 5 fois 50, 250 minutes par jour. C'est un peu plus de 4 heures pour les 50 emails. C'est plus qu'une moitié de votre journée de travail. Et si mon pari est exact, je pense qu'il est exact, que ce soit seulement 20% de vos emails, de vos 50 emails qui sont vraiment importants, ce seront seulement 10 emails qui méritent votre réelle attention. Autrement dit, vous risquez de brûler plus de 3 heures de temps par jour sur les 40 autres emails qui sont des futilités. Les emails, les réunions, les visites inopinées et le perfectionnisme sont tous des voleurs de temps qui peuvent être combattus. Il y a d'autres voleurs de temps qui ne vous laissent en revanche que peu de chance. Ce sont les embouteillages ou bien le retard d'un vol, d'un avion ou des cas de problèmes techniques inattendus. Ce sont des voleurs de temps généralement inévitables. Mais pour de telles situations, acceptez-les. Acceptez-les, ne les combattez pas. Préparez une lecture que vous avez toujours voulu lire, mais que vous n'avez jamais eu le temps de faire. Ou prenez par exemple votre liste des noms d'Allah et réjouissez-vous de l'heure de lecture ou de méditation que vous avez gagnée. Rappelons-nous ce qui a inspiré notre réflexion d'aujourd'hui. Bienheureux sont les croyants. Allah dit bienheureux sont certes les croyants, et il nomme explicitement ceux qui se détournent des futilités. Ceux qui se détournent des futilités, ceux qui se détournent des futilités font partie de ceux qui réussissent, nous dit Allah. Aujourd'hui, j'espère avoir pu vous rappeler que s'éloigner des futilités est un acte de piété, un gage de succès auprès d'Allah. J'espère vous avoir aidé à reconnaître et à éviter les 4 autres voleurs de temps en vous donnant en exemple le perfectionnisme, les réunions, les visites inopinées, les emails. Il y en a encore d'autres. Regardez autour de vous, soyez conscients, soyez attentifs. Ces humbles suggestions sont juste pour vous aider à prendre conscience que s'éloigner de la futilité est un signe de forte piété, est un gage de réussite auprès d'Allah. Les futilités nous font perdre du temps et nous égarent, elles nous détournent de l'essentiel. Si cet épisode vous a plu, je vous demande de laisser un commentaire sur votre chaîne de podcast et d'écrire une petite évaluation sur Apple. Je pense que vous aimerez également un des précédents épisodes qui portait sur Top 3 voleurs de temps pour se détourner des futilités. Et si vous voulez vous améliorer dans un des aspects que j'ai évoqués ici, n'hésitez pas à m'envoyer un email à podcast@alual.com. podcast@alual.com. Merci de m'avoir donné de votre temps. Retrouvez tous les épisodes de mon podcast Alual Coran sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous gratuitement. Visitez mon site alual.com. Je me réjouis de vos suggestions par email à podcast@alual.com. À la prochaine.